histoire est vraie. Elle est de celles qui n'arrivent pas tous les jours. Alors, s'il l'a déjà racontée un bon millier de fois, comme elle les compte, cela vaut la peine de la réentendre. L'histoire de Jean-Claude Bianco quand il a trouvé dans ses filets la gourmette de Saint-Exupéry.
Ben oui, c'était le 7 septembre 1998 et j'avais un chalutier de 25 mètres avec un moteur de 1000 chevaux qui s'appelait l'Horizon. Ce jour-là, je décide avec mon équipage d'aller pêcher aux environs de l'archipel de Riou, qui se trouve juste là derrière les Calanques. Et la météo était très mauvaise. Ils annonçaient de fortes pluies, un grand coup de vent de Mistral. Au large des Calanques, on est plus ou moins à l'abri du Mistral. Alors donc, on décide de venir pêcher par là. On largue le chalut le matin, vers 9h du matin, par 8-9h, à côté de l'île de Riou. Et on fait un coup de chalut de 2 heures. Le chalut est un filet qui gratte le fond de la mer, hein, puis qui ramasse tout ce qui s'y trouve, c'est-à-dire des pierres, du poisson aussi, des mines, des bombes, enfin tout ce qui peut se trouver au fond de la mer. Et on vire le chalut vers 10h par 11h, et il n'y a pas grand-chose. Et puis là, le temps commence à se dégrader énormément, et je dis à l'équipage, on va remettre le chalut à la mer et faire une trie un peu plus longue, puis après on fera route au port, parce qu'on ne finira pas la journée par rapport au temps. Donc on met le chalut à la mer et on fait un coup de chalut partant de Riou en allant vers le phare de Cassidaigne. On retourne vers Cassis, on remonte vers Riou, enfin pendant 3 heures on tourne. Et là, de ce coup, se met à tomber un orage comme j'ai rarement vu. C'était des rideaux d'eau qui tombaient, le radar ne marchait plus, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Et je marchais au GPS et je me voyais rapprocher assez vite de la côte. Donc j'étais à l'équipage, on va mettre à bord et puis on va partir. On vire le chalut sous des trombes d'eau. On vide la poche sur le pont, je pars vite en courant parce que j'avais pas de ciré à la passerelle, j'embraye, je fais route pour entrer au port. Et l'équipage se met à trier le poisson. Peut-être 20 minutes après, demi-heure après, l'équipage a terminé et mon second, qui s'appelle Habib Benamor, qui est tunisien, vient me rejoindre à la passerelle. Et puis bon, on s'est discuté, j'ai dit qu'est-ce qu'il y avait comme poisson, parce que moi j'avais pas vu grand-chose. Alors il m'a dit un peu de bouillabaisse, un peu de merluchon, un peu de rougier, etc. Et puis il m'a dit j'ai trouvé une gourmette, il m'a dit. Ah bon? Oh ouais, il m'a dit, elle était dans un paquet de concrétion et il y avait un petit maillon qui dépassait, qui a brillé. Il m'a dit, j'ai mis la concrétion de côté et quand j'ai fini de trier le poisson, j'ai pris un marteau, j'ai cassé la concrétion et à l'intérieur, j'ai trouvé une gourmette. Il m'a dit, on aurait dit qu'elle était incrustée comme dans du tissu brûlé. Il m'a dit, elle était incrustée carrément dedans. Il m'a dit, je l'ai sortie. Il m'a dit, il y a un nom marqué dessus. Alors j'ai dit, elle est en or la gourmette. Et j'ai dit, c'est en or, on a gagné la journée. Il m'a dit, non, elle n'est pas en or. Il m'a dit, elle est en argent. Alors j'ai dit, allez, il me dit, elle est là, et il envoie la main dans sa poche, et puis maintenant, il y a une gourmette. Une gourmette normale, hein. Un côté, on va dire, les maillons étaient entiers, avec un morceau du fermoir, l'autre côté, avec un maillon. C'était ce fameux maillon qui dépassait de la concrétion, et qui a brillé malgré la grosse pluie qui a attiré son regard. Donc il me tend la gourmette. La plaque de la gourmette était toute noire, toute sale, on ne voyait rien. Alors je mouille mon pouce, puis je frotte comme ça. De ce coup, apparaît Antoine. Alors je me tourne vers Habib, je dis, tiens, j'ai le con qu'il a perdu, il s'appelle Antoine. J'ai dit, tous les Antoine, c'est des cons, ils perdent tout, je lui ai dit. Et puis bon, la curiosité me pousse, Antoine comment? Alors je remouille mon pouce, puis je frotte encore, et là apparaît de Saint-Exupéry. Alors de ce coup, je suis resté scotché. J'y casse que c'est cette histoire. On va dire que ça m'a scotché d'une part, d'un autre côté, pas tellement, parce que un an et demi auparavant, on m'avait loué mon bateau pour remonter des morceaux d'avion en baie de la Ciotat. Avec des plongeurs, un tas de trucs, on avait travaillé toute la journée, et j'avais dit, mais qu'est-ce que vous recherchez? Elle m'a dit, mais on remonte des morceaux d'avion, on pense que ce serait l'avion de Saint-Exupéry. C'est une épave d'avion Lockheed P-38, le même avion sur lequel volait Saint-Ex. Et en fait, ce n'était pas le sien, l'avion, un an et demi auparavant, c'était celui de James Riley, un pilote américain qui avait été abattu quelques mois avant Saint-Exupéry. Donc, quand je vois ça, je suis étonné, mais du coup, dans ma tête, tout s'embrouille. Je dis, comment, nous sommes à côté de Sormiou, la Ciotat, c'est pas loin, je ne comprenais plus très bien. Donc, je me fais amener Spontex, un truc pour nettoyer les casseroles, et là, je nettoie bien la gourmette. Hein, et je vois marqué Antoine Saint-Exupéry, entre parenthèses, à côté Consuelo, et en dessous, Reynald et Nishcock, 4e avenue, en abrégé, hein, 4e avenue, New York City, NYC, USA. Quand j'ai vu ça, ces descriptions, et vu l'état de la gourmette, je me tourne vers Habib, j'ai dit Habib, on a fait un coup de chalut formidable, on a retrouvé la gourmette Saint-Exupéry. Et là, il me dit, qui c'est celui-là? Et bon, je ne savais rien plus que lui, hein. Je savais que Saint-Exupéry avait écrit Vol de nuit, Le Petit Prince, que je n'avais pas lu d'ailleurs à l'époque, et que c'était un héros de l'aéropostale avec Mermoz, Guillaumet et compagnie, mais je ne savais pas plus. Consuelo, je ne sais pas qui c'était. J'ai su plus tard que c'était sa femme. Et Reynald Hitchcock, encore moins. J'ai su plus tard que c'était les éditeurs du Petit Prince qui avaient offert cette gourmette à Saint-Exupéry en 1943 quand il a écrit Le Petit Prince à New York. Voilà. Et donc, partant de là, une aventure terrible a commencé. Je ne m'y attendais pas, celle-là. Et je rentre au port, puis je dis à mon équipage, les gars, ne parlons pas de cette découverte tant qu'on n'est pas sûr à 100% officiellement que c'est bien la sienne. Quoique moi, j'ai été pratiquement sûr, mais quand même, je voulais rester prudent. Si n'en parlons pas, dès qu'on est sûr que c'est la sienne, ben on en parlera. D'accord. Et puis le soir, j'arrive à la maison, je mets la gourmette sur la table du salon. J'habitais chez ma copine à l'époque. J'y tiens, on voit ce que j'ai trouvé. Elle regarde la gourmette, puis elle lit, puis elle me dit, mais ça alors, elle me dit, alors je lui explique dans quelles conditions j'ai trouvé. C'est à ce moment-là, elle me dit, tu sais que c'est Saint-Exupéry sur les billets de 50 francs. Chose que je n'avais pas remarqué jusqu'à ce jour-là. Je vous explique ça parce qu'après, comme on m'a dit que c'est moi qui avais gravé la gourmette, je ne savais même pas que Saint-Ex était sur les billets de 50 francs. Pour vous dire, comment aurais-je pu savoir le nom d'Hitchcock et de Consuelo et compagnie donc. Alors elle me dit, qu'est-ce que tu vas me faire de cette gourmette? J'ai dit, ben, je vais l'offrir à Martin, à mon petit-fils. Elle m'a dit, mais t'es fou. Elle m'a dit, mais c'est un objet historique. Elle m'a dit, Saint-Exupéry, ça fait 60 ans qu'on le cherche. Elle m'a dit, réfléchis un petit peu. Alors, j'ai dit, c'est moi un passé, je vais réfléchir. Eh oui, ça aide. Et je bois mon pastis. Et puis, c'était le moment où était sorti le film, le Titanic. J'avais lu dans un journal que le propriétaire de l'épave du Titanic était devenu très riche suite au tournage du film. Et moi, au bout du deuxième pastis, je commençais à me dire, ben, il y a la gourmette, on va trouver l'avion. On va faire un film, et je voyais des dollars tomber de partout. Et ils ne sont pas tombés, les dollars. Hein. Et donc, je réfléchis bien, puis j'ai attendu de trouver l'avion. La mer, c'est grand, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est grand, la mer. J'avais les coordonnées de Henri-Germain Deloz, qui est le PDG de la Comex, qui est une boîte internationale de travaux sous-marins. Et parce que je savais que c'était un féru d'archéologie sous-marine, et donc j'avais ses coordonnées, son matelot. Un de ses matelots m'avait donné son téléphone. Et 9h du soir, j'appelle M. Deloz. Je me présente, je dis voilà, Jean-Claude Bianco, oui, il me dit que puis-je pour vous. Je dis ben, j'ai trouvé un truc qui pourra vous intéresser. Ah bon? Il me dit qu'est-ce que c'est? Je dis, j'ai trouvé la gourmette Saint-Exupéry. Grand silence au téléphone. Il me dit c'est un canular. Je dis non, pas du tout. Je dis je vous appellerai pas à 9h du soir pour vous raconter des bêtises de ce genre. Ah, le père Deloz me dit comme ça, mais M. Bianco, si c'est bien la sienne, on va être invité à boire le champagne chez Chirac, il m'a dit. C'était ses premières paroles. Donc rendez-vous est pris le lendemain à 9h dans ses bureaux, dans la commerce, qui ne sont pas trop loin d'ici d'ailleurs. Et donc le lendemain, je mène à la gourmette à M. Deloz. Effectivement, il a les yeux qui sortent des orbites. Et quand il voit cette gourmette, il me dit qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, M. Deloz, j'ai dit, écoutez, moi je vous amène sur les lieux où je l'ai trouvé, enfin les lieux approximatifs, parce que j'avais chaluté 3 heures, donc j'avais parcouru 12 000 ans. Le point exact où j'avais pêché, je ne savais pas. Mais je savais que c'était dans ce périmètre. Et j'ai dit, moi, je vous amène sur les lieux, et puis bon, avec vos sonars et vos petits sous-marins, d'où vous cherchez, et puis bon, si on retrouve l'avion, s'il y a des retombées médiatiques ou financières ou autres, j'en fais 50-50. Sur le champ, il téléphone à sa secrétaire, il fait taper un contrat. Voilà, il me dit, les recherches seront faites dans la plus parfaite éthique, etc., etc. Et puis bon, on fait le contrat. Et puis il me dit, bon, pour le moment, ne parlons pas de la découverte. Il me dit, tant qu'on n'a pas trouvé l'avion, on n'en parle pas de la gourmette. Il me dit, autrement, on va avoir tous les médias de France et de Navarre sur le dos et on ne pourra pas chercher. Il me dit, dès qu'on a trouvé l'avion, il me dit, on déclare tout, gourmette, avion et tout. OK. Et nous pensions en avoir pour 2 mois pour trouver l'avion. 1 mois, 2 mois, je ne sais pas. On a mis 4 ans et demi.
Mais vous l'avez retrouvé?
Oui, ouais, 4 ans et demi. Heureusement d'ailleurs. Parce que bon, ben, ça va, on commence à chercher avec M. Deloz, on cherche, les jours passent, les semaines passent, on ne trouve rien. Puis je pars en vacances en Tunisie, 1 mois et demi après la découverte de la gourmette. Et là, de ce coup de téléphone, enfin coup, le téléphone prend feu. Mon frère qui me dit l'histoire de la gourmette, c'est su. Mon frère était à la CRI à Marseille, là, au port de Somaty. Il me dit l'histoire de la gourmette, c'est su. Il me dit le port de Somaty est envahi par les journalistes. Allume la télé ce soir, tu vas nous voir sur la 1, sur la 2, sur la 3, enfin de partout. Et effectivement, le soir, j'allume la télévision en Tunisie. Là-bas, j'étais à Monastir. Et je vois mon chalutier, mon équipage et tout. Enfin, et un truc épouvantable. Et le téléphone qui n'arrêtait pas de sonner. Tout le monde voulait une interview et tout. Moi, j'étais en vacances. Je me verrai quand je rentrerai. Et là, d'un coup, je reçois un coup de fil du chef de cabinet du préfet qui me dit « Demain, je veux la gourmette aux affaires maritimes. » Je dis « Mais monsieur, je suis en vacances, je suis en Tunisie. Dès que je rentre, je vois la mienne. » Je dis « En plus, la gourmette, ce n'est pas moi qui l'ai. » Je l'ai remise à M. Deloz qui l'a mis dans son coffre et tout. Il me dit « Je voudrais savoir, demain, je veux la gourmette aux affaires maritimes. » Il me dit « Si vous ne venez pas, je vous envoie les gendarmes. » Ah, je me suis parlé si gentiment, alors je vais essayer de venir. Et là, je me débrouille de trouver 2 places d'avion à mes frais, bien entendu. Et je rentre précipitamment de Tunisie, donc ça va. Je remets la gourmette, enfin avec Madame Delos, puisque c'est elle qui l'avait, au directeur des affaires maritimes. On me fait un reçu comme quoi je suis l'inventeur de la gourmette. Inventeur, ça veut dire inventer. Hein. C'est pas que j'ai inventé quelque chose. Hein. C'est un terme qu'on emploie comme ça, inventeur. Et voilà. Puis bon, je vois plus de gourmette, je n'entends plus parler de rien. Un mois et demi après, je rencontre un copain qui me dit « Tu devrais acheter le journal Science et Vie. » Il me dit « T'arrange bien comme il faut. » Ah bon ? Je me précipite chez le marchand de journaux le plus proche et j'achète Science et Vie. Et là, je vois sur la couverture l'affaire de la fausse gourmette, hein, comme je vous l'ai dit. Et à l'intérieur, un article de 4 pages, écrit par un semblant de journaliste, parce que pour moi c'était un semblant de journaliste, qui s'appelle Jubelin, ouais, Jubelin, me semble bien, ouais, en disant que la gourmette a été remise aux héritiers de Saint-Exupéry par le ministère des Armées, et que les héritiers de Saint-Exupéry mettent en doute l'authenticité de la gourmette, et donc il y a tout un laus où on me fait passer pour un faussaire. Alors, déjà le titre sur la première page, l'affaire de la fausse gourmette. Comment peut-on se permettre d'écrire un titre pareil sans avoir vérifié les sources et savoir ce qu'on écrit? Et ça, croyez-moi que j'en veux à ce journal. Hein.
C'était bien affirmatif sans avoir vérifié.
Exactement, tout à fait. C'était bien affirmatif sans avoir vérifié. Et on ne fait pas des choses pareilles. Donc, je vois cet article, alors là, maintenant, je commence à... J'ai dit, on m'a ruiné mes vacances en Tunisie, ça va. Ça m'a coûté des billets d'avion, ça va. Et maintenant, on me fait passer pour un faussaire, ça ne va plus. Alors, je vais voir un avocat, et je dis, maître, vous avez qu'à écrire aux héritiers de Saint-Exupéry qui sont en possession de la gourmette, en leur disant que s'ils pensent qu'elle est fausse, ils me la rendent immédiatement, elle est à moi. Et si elle est vraie, qu'ils le disent haut et fort, qu'on arrête la polémique, qu'on arrête de me faire passer pour un rigolo. Donc mon avocat écrit, et les héritiers ne me répondent pas. Pas jugé bon de me répondre, je ne sais pas pourquoi. Et là, je dis, bon, ben, on va attaquer. L'avocat en question me dit, ah, moi, vous comprenez, c'est plus de mon ressort, c'est une affaire trop importante et tout. Enfin, le gars, il se désengage. Et je me dirige vers Maître Collard. Bon, on va passer sur tout ça, sur ces histoires judiciaires et tout. Il y en aurait trop à dire. Et toujours, on cherche pour trouver l'avion, pour prouver que... Parce que dans l'histoire, M. Deloz, moi, Philippe Castellano, qui est l'historien de notre équipe et tout, on passe tous pour des rigolos. Et là, ça me perturbe énormément, parce que j'ai un pavé d'articles comme ça, c'est une histoire qui a fait le tour du monde. J'ai des articles du New York Times, de la Pravda, de tous les pays du monde entier, je peux vous les montrer... où je passe pour un faussaire de partout. Alors là, ça mérite énormément. Et bien entendu, j'augmente ma consommation de cigarettes. J'arrive à 3 paquets de gitanes par jour. Ma consommation de pastis. Et là, je tombe malade et je me perds 3 semaines de coma. Ouais, où j'ai failli mourir. Le bon Dieu n'a pas voulu de moi, mais bon. Et voilà qu'en 2000, chemin faisant, en 2001, par là, ouais. 2001, 2002, ouais. Il y a un plongeur qui s'appelle Luc Van Rel, qui est un plongeur professionnel, dont le père connaissait des morceaux d'avion à côté de l'île de Rio. Et qui dit à son fils, il dit que tu devrais aller voir à cet endroit, il me semble qu'il y a des vestiges d'avion, c'est peut-être intéressant et tout. Et Luc, dans son coin, sans rien dire à personne, nous on n'est pas au courant avec Deloz, hein. Il plonge, il prend des photos, des vestiges qui vont au fond, c'est profond, il y a 85 mètres d'eau quand même. Hein. Et là, il voit un train d'atterrissage, et c'est le début d'Internet, ou c'est le début où lui a Internet, et il trouve un vétéran, un pilote américain, qui a piloté ses avions et qui a travaillé dans l'usine où ils étaient fabriqués. Et il lui envoie des photos du train d'atterrissage. Et ce monsieur est pratiquement convaincu que c'est bien le train d'atterrissage d'un P-38, le même que celui que pilotait Saint-Exupéry. Donc partant de là, alors il prend un tas de photos et tout, puis après quand il a pratiquement la certitude que c'est bien le sien, il téléphone aux héritiers en leur disant « Voilà, je crois que j'ai trouvé l'avion de votre oncle ». Et là, les héritiers répondent « Ouais, vous faites partie de la bande des Marseillais », parce qu'on était devenu la bande des Marseillais, de Loz, moi, et etc. Un peu comme des malfaiteurs, on nous traitait au travers de certains articles de profanateurs de sépultures, j'en passe des meilleurs. Quand Luc voit ça, il se dit « Qu'est-ce que je vais faire ?» Il vient vers nous, il se dirige vers nous. Il dit « Les gars, je crois que j'ai trouvé l'avion de Saint-Ex. » Mais là, il faut encore le prouver, parce que déjà échaudé du coup de la gourmette, on a dit « Il faut qu'on apporte des preuves flagrantes. » On demande l'autorisation de remonter le morceau d'avion. Chose qui nous était interdite jusque-là, parce qu'on nous faisait barrage de partout. Hein. On ne voulait pas qu'on retrouve l'avion. Et on se met tous ensemble avec l'historien Castellano qui a un truc qui s'appelle Aérolique, il y a lui, il y a Deloz, il y a moi, il y a Pierre Becker, enfin les 4 ou 5 ou 6 dans ce coup-là. Et on demande des autorisations officielles de remonter le morceau d'avion. et on remonte les morceaux d'aviron. Et puis l'équipe de Castellano, l'historien, d'abord on nettoie bien tous les morceaux d'aviron. Et là, on a un coup de chance terrible. On tombe sur un morceau où il y a le numéro de châssis de l'avion de Saint-Exupéry, qui prouve formellement que c'est bien le sien. Et là, de ce coup, je deviens le pêcheur de miracles. Je ne suis plus le faussaire, je deviens un pêcheur de miracles. Et après, par la suite, les recherches continuent, parce qu'on sait où Saint-Exupéry est tombé. Mais comment est-il mort? Certains disent qu'il s'est suicidé, d'autres disent qu'il a été abattu, d'autres disent qu'il est tombé en panne, etc. Et là, après, il y a Luc Van Rel, avec Philippe Castellano, qui continue les recherches, et qui arrive à trouver un moteur d'avion qui est envasé, qui était à côté des morceaux de Saint-Exupéry. Sur le moment, ils pensent que c'est le moteur de Saint-Exupéry, mais en fait, non. Ils sortent le moteur et il se trouve que c'est un moteur de Messerschmitt, d'avion allemand. Donc, à ce moment-là, ils se disent, les deux avions ont dû entrer en collision. Ils ressortent le moteur, ils le nettoient et ils l'envoient au musée de l'air et de l'espace de Munich, en Allemagne. Et là-bas, un historien qui s'appelle Lino Von Garzen, met le moteur à nu complètement, il est en pièces détachées, il le nettoie et tout, et il arrive à retrouver les numéros. Et il compulse les archives allemandes, et il retrouve quel était le pilote qui le pilotait. Et il se trouve que c'était un prince allemand d'une très grande famille qui avait été abattu lors de sa première sortie. Il avait 20 ans, ce mec-là. Il a été abattu 3 mois avant Saint-Exupéry. Quand la famille du prince sait qu'on a retrouvé l'endroit où leur frère s'est craché, comme c'est des très grandes familles influentes en Allemagne, ils veulent faire des recherches approfondies pour savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu, etc. Donc ils vont faire une enquête. Ils recensent les pilotes survivants en Allemagne qui étaient à cette époque-là sur la zone de Marseille, au Mille et à Marignane. Et là, ils en trouvent 6 de pilotes survivants, des gars qui ont 85, 90 ans. Et sur les 6, ils vont voir le premier, il se rappelait très bien comment ça s'est passé lors de la mort du prince, et quand l'historien lui pose la question sur Saint-Exupéry, là, il a des pertes de mémoire. L'historien, c'est bizarre, à 3 mois d'intervalle, il va voir le deuxième pilote, pareil, il se rappelait très bien comment ça s'est passé pour le prince, et après Saint-Exupéry, il a des pertes de mémoire, alors là, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Et le deuxième dit, vous devriez voir le troisième, qui s'appelle Hortstripper, lui, peut-être, vous en dira plus. Alors, je vous la fais courte, quand l'historien arrive chez Monsieur Ripper, il dit, ne cherchez plus, c'est moi qui ai battu Saint-Exupéry. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, en gros, c'est que le jour où Saint-Exupéry a été abattu, il y a eu 8 avions du même type que le sien abattus le long de la côte provençale. Comme Saint-Exupéry revenait, c'était le 31 juillet 1944, revenait d'une mission de repérage pour préparer le débarquement en Provence. D'une mission de repérage, il était parti de Bastia pour aller photographier les forces allemandes au-dessus de Grenoble, Chambéry, etc. Et donc, au retour, on a perdu sa trace. Mais jamais on l'a cherché du côté de Marseille. Il y a un pilote allemand qui s'appelait Kelly, qui dit, moi, j'ai abattu un P-38 au large du Lavandou, vers midi, midi et demi. Donc, on a dit, c'est Kelly qui a dû abattre Saint-Ex, mais on n'avait aucune preuve, puisque c'était sa route de retour. Mais quand nous, 57 ans après, on a retrouvé le reste de l'avion ici, Ripper a dit, mais c'est pas Kelly qui l'a abattu, c'est moi. Parce que Ripper savait qu'il avait abattu un P-38 ici. Et quand on l'a retrouvé, il a dit, c'est moi qui l'ai abattu. Et là, il a fait sa déclaration à la télévision allemande et tout, et il pleurait, le mec. J'ai vu le reportage, il avait les larmes aux yeux. Il dit, s'il avait su que c'était lui, j'aurais pas tiré. Parce que pour lui, Saint-Ex était un peu son idole. Pour la bonne et simple raison, c'est que les vols de nuit pilotes de guerre, c'était les premiers livres traduits en allemand sur l'aviation. Donc tous les pilotes de la Luftwaffe avaient lu ces livres. Ils étaient un peu devenus pilotes, un peu grâce à ces trucs. Et donc il était vraiment peiné, le gars. Mais bon, c'était la guerre.
Il a bien failli être pris dans la nasse, Jean-Claude Bianco, avec cette histoire de la gourmette de Saint-Exupéry. Un vrai roman. L'histoire en a déjà été écrite. Un jour, peut-être, qui sait, le film sera tourné.